Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette rentrée qui s'annonce haute en couleurs. Aujourd'hui, nous échangeons avec Anne Francin, qui est devenue depuis peu doula, afin d'accompagner les familles dans leur projet d'enfantement. Elle nous offre un nouveau regard sur la naissance et la parentalité en proposant un accompagnement bienveillant qui va du prénatal au postnatal. Nous avons donc échangé autour des bienfaits qu'apporte une doula dans une famille. Nous avons aussi parlé de péridurale, de postpartum, de PMA et de bien d'autres sujets si remarquablement abordés par Anne. Je vous souhaite une belle semaine et surtout une douce rentrée. Bonjour Anne.
Bonjour Stéphanie, Sylvie.
Je suis ravie de te présenter à nos auditeurs puisque je te suis depuis un certain moment. Tu m'as notamment accompagnée pendant ces longs confinements grâce à tes cours de yoga qui allient fluidité, harmonie, spiritualité, créativité et j'en passe. Ton approche holistique m'a profondément marquée et je pourrais en parler pendant des heures, mais on n'est pas là aujourd'hui pour ça. On est là pour parler de la nouvelle corde que tu as à ton arc, puisque tu es devenue doula. Et c'est un sujet qu'on avait envie d'évoquer depuis longtemps dans le podcast, donc on est ravis de l'évoquer avec toi. Et pour démarrer cet échange, j'aimerais forcément que tu nous parles de ton parcours et de ce qui t'a emmené au yoga, à la formation de doula, etc. Et notamment à comment tu te définis, puisque tu te définis notamment comme une exploratrice passionnée du féminin. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi cela consiste ?
Merci pour cette belle première question. Alors, c'est vrai que ce terme, je l'ai employé, exploratrice du féminin et même du féminin sacré, comme étant un petit peu ma mission avec mon podcast Divine, que tu connais aussi, que j'ai développé depuis un an. Et c'est vrai que cette expression, la exploratrice du féminin, exploratrice passionnée du féminin sacré, elle me définit bien dans le fait que je suis quand même aussi résolument féministe avec un appétit spirituel assez développé, on le voit avec le yoga. Et puis, cette conviction que la parole des femmes, la présence des femmes doit résonner plus fort dans l'espace public. Et donc, j'ai eu la volonté d'apporter avec ce podcast un regard plus profond et construit sur la notion du féminin sacré. Mais ça s'inscrit vraiment dans une posture plus globale. Et j'ai vraiment depuis longtemps à cœur l'envie de célébrer les femmes. Et mon activité de professeur de yoga, cette nouvelle corde à mon arc de doula, ainsi que le podcast, c'est vraiment une seule et même posture, une seule et même envie. Aider les femmes à incarner avec plus de puissance les femmes qu'elles sont. Ça, c'est plus difficile, laisser de côté les conditionnements. Et pour donner plus de place à notre liberté, à notre autonomie, se donner le droit de réclamer aussi, que ce soit par le corps, donc là, avec tout le travail du yoga, que ce soit dans nos transitions de vie, par exemple la naissance de nos enfants, la parentalité, bien sûr, donc là, c'est avec l'activité de doula, ou pour accompagner et inspirer avec les invités de mon podcast.
Et alors, pour revenir un peu à ton parcours, j'ai vu que tu avais suivi des études de commerce, puis tu as rejoint un grand groupe français dans la communication, donc un parcours qu'on pourrait définir comme relativement classique. Puis, il y a eu quand même un grand changement de vie avec le yoga. Comment s'est passée cette transition vers ce nouveau métier, cette nouvelle vie, cette nouvelle approche holistique de ta vie, de ton métier ?
Alors, oui, j'ai un parcours très classique, très dans les normes. Et puis, un jour, j'ai eu un enfant. Et avoir un enfant, ça amène de grands bouleversements, même si on n'en a pas conscience forcément sur le moment. Et j'ai commencé, je pratiquais déjà un petit peu le yoga, j'ai pratiqué beaucoup de danse quand j'étais enfant. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie d'autre chose. C'est juste après la naissance de mon fils que j'ai commencé ma première formation pour être prof de yoga. Et une fois que j'ai mis un pied là-dedans, c'était fini. Je ne pouvais plus revenir en arrière. Mais la transition, elle s'est faite très doucement et très progressivement. J'ai longtemps travaillé à temps partiel, comme beaucoup de femmes d'ailleurs. J'ai longtemps travaillé 4 jours, enfin, plutôt fait ce que je faisais en 5 jours, en 4.
puis, c'est tout le temps comme ça.
C'est tout le temps, très souvent comme ça. Et puis un jour, je me suis lancée. J'ai même attendu quand même assez longtemps avant de me lancer vraiment à temps plein en tant que prof de yoga. Donc la transition, elle s'est faite plutôt doucement, plutôt comme une évidence, et puis plutôt avec pas mal de peur aussi et de d'inquiétude parce que on passe d'un monde très normé, très classique, à un monde inconnu et libre. Et avoir des ailes qui poussent, c'est parfois très déroutant.
Oui.
On doit trouver vraiment de nouveaux repères et une nouvelle stabilité et une confiance en soi. Et ça met du temps, donc j'ai pris mon temps. Je me suis posé des questions, bien sûr, j'ai fait des tableaux avec des plus, avec des moins, enfin vraiment. Mais en même temps, c'était naturel et évident surtout. Ouais.
Alors, tu as parlé de la naissance de ton fils. Comment ça s'est passé? Comment tu as vécu cette naissance d'un point de vue émotionnel? Tu parles d'un changement profond et on en entend quand même souvent parler de ce bouleversement qu'est la naissance. Tu pourrais nous partager ton ressenti là-dessus ?
Alors, bon, en plus, je suis mariée avec une femme formidable. Donc, pour avoir un enfant, même s'il y a une loi qui est passée très récemment dans le cadre de la loi bioéthique, mais il y a 8 ans, et encore depuis, pour les couples de femmes ou les femmes célibataires, quand on souhaite des enfants, on ne peut pas avoir des enfants en France. Et donc, on va à l'étranger. Bien souvent, il y a d'autres méthodes, mais nous, on est allés à l'étranger. Et cette envie d'avoir un enfant, elle était très forte. C'était devenu vraiment aussi une évidence, comme une urgence un petit peu. Et quand on est dans ces envies-là, le parcours PMA qui est très médicalisé et qui peut être très médicalisé, très long et assez rocambolesque, paraît encore plus long. En fait, avec le recul, c'était pas tant un parcours du combattant que ça, parce que ça a fonctionné relativement vite, en moins d'un an. Mais je sais que pour avoir partagé avec beaucoup de femmes et l'avoir vécu là récemment aussi une seconde fois, ça peut être vraiment bien plus difficile, bien plus compliqué, médicalement parlant, pour le corps, pour le mental, pour le couple, pour les personnes qui accompagnent. Donc oui, la PMA, que ce soit pour les couples de femmes, les femmes célibataires, ou pour les femmes qui ont aussi des sujets de fertilité, la PMA, c'est vrai que c'est un vrai parcours. Ça peut être un vrai parcours du combattant, bien sûr. Ouais. Et je l'ai vécu comme tel. Et avec le recul, je me dis que finalement, ça a été plutôt... voilà, ça a marché relativement vite. Et puis, mon bébé s'est accroché tout de suite. Et après, tout s'est super bien déroulé. Aussi parce qu'on a été bien accompagné.
Oui, c'est ce que j'allais te demander.
En France, ouais, qui sont... heureusement, qui sont vraiment très ouverts, qui accueillent les couples de femmes, les femmes célibataires, qui ne jugent pas nos choix et qui nous accompagnent avec bienveillance. Donc, ce n'est pas toujours facile de trouver les bonnes personnes, mais il y a des réseaux qui existent. On a été très aidés aussi par une association qui s'appelle l'APGL, qui est l'association des parents gays et lesbiens, et ils montent régulièrement, ils font des réunions fréquentes et ils montent des groupes de parole entre parents. Et ça nous aide beaucoup. C'est un groupe de parole qu'on a gardé, ça fait 8 ans, et même si on s'est un petit peu distancé, on est encore en contact avec ses mamans. Et ça, en fait, c'est le plus important, c'est d'être soutenu, d'être compris, d'être soutenu et avec bienveillance. Et ouais, tout à fait.
Et comment vous avez décidé qui porterait votre premier enfant ?
Là encore, c'était assez évident. J'avais, moi, une envie... très forte. Bon, j'ai 2 ans de plus que ma femme, ça a peut-être joué, mais disons que j'étais bien plus prête, je pense globalement, à porter un enfant, pas accueillir un enfant, mais à porter un enfant. Donc, il y avait aussi une question de porter un enfant dans son corps, de vivre une grossesse et un accouchement. Et donc, c'était très évident.
Et comment tu as vécu cette grossesse et cet accouchement ?
Alors, la grossesse, hyper bien. J'étais très, très heureuse d'être enceinte et la grossesse s'est très bien déroulée. Et puis, donc, comme je disais, on était bien accompagnées. La naissance également, j'ai eu la chance d'avoir une naissance en plateau technique à Paris, dans une maternité qui est la clinique Jeanne d'Arc.
Tu peux nous dire ce que ça veut dire, alors, plateau technique ?
Oui. Alors, c'est une des possibilités... De naissance en France. Le plateau technique, c'est un espace dans une clinique, une maternité, qui est mis à disposition de sages-femmes gynéco qui travaillent en libéral. Et pour les femmes, c'est une très bonne alternative. Moi, je trouve personnellement, quand on souhaite accoucher dans une structure médicale, c'est une bonne alternative à l'accouchement classique, puisqu'en fait, on est suivi par notre sage-femme qui nous a préparé lors d'une préparation globale, qui est présent ou présente tout le long du process de l'accouchement avec nous.
Génial.
Ainsi qu'en post-natal immédiat, ainsi qu'en suivi en post-natal à la maison ensuite.
Ah ouais.
Donc, moi, c'était un sage-femme en l'occurrence. Le sage-femme qui m'a accompagnée pendant toute ma grossesse était présent le jour de l'accouchement. C'est lui que j'ai appelé. C'est à son cabinet que je suis allée. Il est venu avec nous dans le taxi pour aller jusqu'à la clinique. Donc, il était vraiment là. Il est resté tout le long de l'accouchement, le post-natal immédiat. Il est venu après, évidemment, dans la chambre. Il est revenu à la maison ensuite. Donc, il y a vraiment déjà cette confiance, la personne qui est là, on la connaît, elle nous connaît, on a fait la préparation avec elle. Pour la personne, le partenaire qui est là ou la partenaire, c'est un vrai confort aussi parce que quand on n'a pas fait de préparation, comme je vais vous en parler juste après, j'imagine, c'est très difficile pour la personne qui est là, le ou la partenaire qui est là, d'accompagner, de supporter de façon efficace, de trouver sa place au moment de l'accouchement. Donc, le fait que le ou la sage-femme qui est là soit connue et qu'on ait confiance, ça joue un rôle énorme. Et en post-natal aussi. Le post-natal, c'est vraiment un espace où il y a beaucoup de place, beaucoup d'enjeux. On en parle beaucoup en ce moment. Il y a pas mal de livres qui sont sortis sur le sujet, beaucoup de podcasts qui en parlent aussi, et c'est bien. Et la présence d'un sage-femme qui vient à la maison en post-natal, c'est précieux. Donc ça, c'était super. Et puis, la gynéco-obstétricienne qui nous suit, qui nous a suivis tout le long du parcours PMA aussi, était là également. Donc voilà, c'était c'est ça, vraiment un cadre très rassurant et en même temps, rassurant aussi parce que pour les femmes et les parents qui... souvent, il y a ça, hein, l'angoisse de « et si il se passe quelque chose de grave pendant l'accouchement ?» Eh ben, on est dans la structure de la maternité. S'il y a besoin d'une césarienne, voilà, c'est la salle à côté. Enfin, voilà. Donc,
ça fait une magnifique transition pour qu'on parle maintenant de ta formation de doula. J'ai vu sur ton site que tu as dit « Je réalise que ce n'est pas simplement une formation que j'ai entamée là, mais une véritable transformation. » Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de cette formation de doula et plus précisément de doula quantique, nous expliquer ce qu'est une doula et en quoi a consisté cette formation?
Alors, cette formation, je la suis avec Karine Langlois et Mélanie Chevary. Karine, elle est plus connue, elle est assez connue sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sous le nom de Quantique Mama. Ce sont deux femmes, sages-femmes et doula exceptionnelles canadiennes, toutes les deux du Québec. Donc, la formation est en français, tout à distance, tout en virtuel. Donc, répond vraiment aussi à des besoins en temps de Covid où tout a basculé en virtuel et on s'est rendu compte à quel point ça fonctionnait. Parce que ça permet à des doulas du monde entier, en tout cas de la francophonie, de s'inscrire à cette formation, de créer des réseaux vraiment super puissants. Et en même temps, donc on a énormément de contenu. Hein, la formation, elle dure 10 lunes. Donc, un peu plus de 10 mois, en gros 10 mois. 10 lunes, c'est le temps d'une grossesse. Et on a environ 130 heures de vidéos, plus 2 rencontres Zoom par mois. Et on est divisé en groupes d'environ 25 doulas. Et groupes avec lesquels on partage pendant ce laps de temps de 10 lunes. Et on a vraiment le temps de tisser des liens avec ces autres doulas. En l'occurrence, ouais, dans mon groupe, on a tissé des liens très forts et on va bientôt, j'espère, se rencontrer en vrai, dans la vraie vie. Donc là, le virtuel n'est pas une barrière. Et donc cette école, je fais partie de la première promotion, la première cohorte. Et donc la formation se termine là en ce moment. Et une doula, pour répondre aussi à ta question dans la question, la doula, pour faire précis et bref, c'est une gardienne d'espace. C'est une personne qui se place au service d'une autre personne pour accompagner dans les transitions de vie. Alors, c'est vrai que là, on pense à la doula beaucoup plus fréquemment en ce qui concerne les naissances, bien sûr. Donc, la doula, elle peut néanmoins avoir un spectre d'action beaucoup plus large. Donc, la plupart du temps, c'est pour un suivi de grossesse, l'enfantement et le postnatal. La doula, elle peut aussi intervenir au moment d'une préconception, donc aider entre autres, mais pas que, sur des parcours qui peuvent être difficiles, voilà, des parcours de PMA. La doula, elle peut aussi aider dans toutes les transitions de vie. Je pense à la ménopause, par exemple. Je pense au deuil, à l'accompagnement du deuil périnatal également. Donc ça, c'est des espaces où les doulas ont toute leur place. Elles sont vraiment présentes dans ces portails de la vie et parfois de la mort, avec vraiment une posture de bienveillance, d'humilité, de respect. Quand on pense aux doulas, donc beaucoup plus fréquemment dans le domaine de la périnatalité, les doulas, j'ai envie de dire qu'elles sont là pour aider les familles, les parents à réaliser leur rêve de parentalité. Et la doula quantique, comme le proposent Karine et Mélanie dans leur école de Quantique Doula, elle a un positionnement qui est entre science et sacré, entre le visible et l'invisible. C'est-à-dire qu'il existe vraiment aujourd'hui, et il devrait exister, un plus grand espace pour les parents qui souhaitent un accompagnement moins médicalisé et en complément de leur suivi classique. Donc là, j'anticipe peut-être une question que tu veux me poser, mais la doula, elle ne remplace pas une sage-femme ni un médecin. Elle vient en complément. Donc on peut faire un travail de suivi avec une doula en complément du travail de suivi d'une sage-femme et d'un médecin, d'un gynéco. La doula, elle prend vraiment en compte qui sont les parents, d'où ils viennent, leur background, ce dont ils ont envie, ce dont ils ont peur, ce dont ils rêvent, pour les guider vers leur parentalité rêvée. Et on a un gros, gros boulot de déconstruction. De déconstruction des croyances, de déconstruction des conditionnements. Peut-être j'anticipe aussi une question que tu vas me poser, mais en France, c'est un métier qui est en train de voir le jour depuis quelques années déjà, mais qui, je l'espère, alors on sent hein, beaucoup de résistance aussi, c'est normal. Tout changement est sujet à la résistance, donc je pense qu'il faut vraiment se dire que c'est normal. Mais de plus en plus, les doulas vont prendre de la place, et c'est une bonne chose, je pense. Et encore une fois, ce n'est pas pour remplacer les sages-femmes qui font un travail formidable et qui ont beaucoup de revendications d'ailleurs, parce que les sages-femmes, elles sont malheureusement trop peu nombreuses, trop peu rémunérées, trop peu considérées. Et ce que veulent les doulas, je ne veux pas être un porte-parole global, mais j'ai l'impression en tout cas que ce que veulent les doulas, c'est travailler main dans la main avec les sages-femmes et avec le corps médical pour être au service des parents.
Et alors, concrètement, si on veut se faire accompagner par une doula, comment ça se passe ?
Alors, la doula, elle a plusieurs rôles, pour rentrer un petit peu plus dans le détail. La doula, elle a d'abord un rôle de transmission d'informations. Aujourd'hui, on est dans un monde ultra, entre les réseaux sociaux, les médias, enfin ultra médiatisé, où il y a une somme d'informations disponibles qui est incroyable, ce qui est super. Et en même temps, c'est assez difficile quand on entre dans la parentalité, surtout quand c'est la première grossesse, pas que, mais surtout quand c'est la première, de filtrer ces infos, de comprendre ces infos et de savoir c'est quoi les bonnes infos pour moi dans mon contexte. Donc la doula, elle est là aussi pour comprendre qui sont les parents, faire ce rôle de filtre et leur donner le plus d'informations possibles, ciblées, pour leur permettre de faire des choix le plus éclairés possible, des choix en conscience, pour définir leur projet de naissance, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur transition vers cette parentalité, qu'est-ce qu'ils veulent pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur bébé, pour leur famille. Après, elle a un rôle de vraiment de porteuse d'espace et de soutien émotionnel. Ce que font moins et ont moins le temps de faire aussi, en général, le corps médical. On traverse énormément d'émotions, que ce soit pendant la préconception, pendant la grossesse, pendant l'enfantement, pendant le postnatal. Ce sont vraiment des espaces de vie où les chamboulements peuvent être très puissants. Et donc, la doula, elle est vraiment là pour faire un soutien émotionnel. Un soutien qui peut être logistique aussi, donc aider à organiser l'espace de vie, aider à organiser le moment de l'enfantement, le postpartum aussi beaucoup, ça c'est super important, aider à organiser l'espace de l'après-naissance, ça c'est un moment où souvent on est très démunis. La doula, elle peut avoir aussi un rôle spirituel, on en reparlera sûrement un petit peu, mais aider et proposer de ritualiser des moments, ça peut être ritualiser le passage d'un trimestre à l'autre de la grossesse, ritualiser l'envie d'un enfant, ritualiser la naissance, ritualiser les 40 premiers jours du bébé. Il y a plein de moments où on peut proposer des rituels. Et puis, elle a un rôle préventif aussi. La doula, elle peut parler du deuil qui fait partie, en tout cas, du portail de la mort. Au moment de la naissance, la vie et la mort sont intimement liées toujours. Sans parler forcément de la mort d'un bébé, mais quelque part, quand on donne naissance à un enfant, on meurt un petit peu à soi-même. Et on est nouveau. On est dans une nouvelle part de nous-mêmes. Mais bien souvent, il y a quelque part un deuil à faire, un deuil d'une part de soi-même qui n'est plus quand on devient parent. La doula, elle peut avoir un rôle préventif quand on parle du post-natal, du post-partum. On parlera peut-être, si on a le temps, malheureusement, du très grand taux de dépression postnatale, donc il y a vraiment un rôle préventif là-dessus, puis sur d'autres sujets. Donc elle, ouais, elle a vraiment tous ces rôles-là, et elle peut intervenir à n'importe quel moment. Souvent, les parents font appel à la doula pour la naissance, on va dire, entre le milieu du deuxième trimestre et le troisième trimestre. Mais la doula, elle peut intervenir très tôt, en préconception. Elle peut Alors, en général, elle est rarement là juste pour le jour de l'enfantement, parce que ça n'a pas vraiment de sens. Il vaut mieux préparer ce moment avec elle. En revanche, elle peut intervenir uniquement sur le post-natal. Pareil, on aime quand même mieux connaître la famille, connaître les parents et les avoir au moins rencontrés une ou deux fois avant. Mais il y a des doulas qui sont spécialisées sur le post-natal. Et puis, les doulas, elles ont souvent beaucoup de compétences en complément. Il y a des doulas qui sont kinés, il y a des doulas qui sont ostéo, il y a des doulas qui sont comme moi, prof de yoga, il y a des doulas qui sont naturopathes, il y a des doulas qui sont... Voilà, on a vraiment toute une panoplie. Il y en a qui sont spécialistes en allaitement, en portage, en massage. Donc, c'est ça qui est super aussi, c'est qu'avec les doulas, on rentre dans un monde où, en fonction de ce dont on a envie, de ce dont on a besoin, ben on peut choisir une doula qui a ses facettes qui nous correspondent. Elles sont rarement...
Alors, c'est quoi tes facettes à toi ?
Alors, ben moi, je suis doula, je suis prof de yoga. Et donc, je pense que c'est vraiment moi, ma spécialité à moi. Allier la préparation avec le soutien émotionnel, le soutien d'information, avec le soutien dans le mouvement et d'en traverser toutes ces étapes de nos vies, dans nos corps, de la façon la plus optimale possible. Dans notre formation, on a aussi bien sûr, alors il y a tout un gros chapitre anatomie et physiologie, féminin sacré, rituel, entrepreneuriat, et on a aussi, on parle aussi beaucoup d'alimentation, de comment prendre soin de son énergie avec son alimentation, avec les compléments alimentaires, se préparer son corps de façon optimale pour vivre une grossesse optimale et un postnatal optimal. On a aussi toute une facette dans la formation où on nous enseigne la science, enfin la sagesse des plantes. Donc sans avoir un diplôme d'herboriste, c'est pas l'idée, mais voilà, on a une connaissance aussi des plantes qui peuvent aider dans toutes ces transitions de nos vies. Et voilà, il va y avoir des doulas qui vont être, par exemple, naturopathes, j'en connais plusieurs, et c'est formidable parce que quand on a besoin d'un soutien dans son alimentation un peu plus précis, ça peut être vraiment chouette.
C'est tellement complet.
Oui.
Je ne pensais pas que vous faisiez autant de choses. Et donc, justement, vous accompagnez pas que les mères qui portent l'enfant, mm-hmm. vous accompagnez le couple
oui.
dans ce ouais. changement de vie.
Oui, ça, c'est très important à dire. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, bien souvent, les partenaires ont du mal à trouver leur place. Et là, d'où là, les rendez-vous qu'on fait, moi, je me déplace chez les parents, dans la famille, la doula, elle prend en compte la cellule familiale. Évidemment, notre cliente principale, c'est la personne qui porte l'enfant et qui va donner naissance à l'enfant. Mais toutes les personnes qui vont être autour, dans la maison, sont importantes, à commencer par là où le partenaire et les rendez-vous qu'on fait, on demande vraiment la plupart du temps à ce que le partenaire soit là. C'est une aventure qu'on vit à deux. Et donc, moi, j'aime bien aussi donner des missions très précises à la personne qui accompagne, qui est là le jour J. D'autant plus que, en temps de Covid, dans les maternités, les doulas sont moins facilement acceptées. Donc, c'est vraiment important que la personne qui accompagne puisse être empuissancée également et jouer ce rôle de gardien ou gardienne de l'espace pour la femme qui accouche. Et puis s'il y a des enfants, il peut y avoir un rôle aussi. Alors il y a peu d'accouchements à domicile en France, vraiment ça reste à la marge, on parle de 0,5% des femmes qui accouchent, mais il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de demandes, entre autres depuis un peu plus d'un an, depuis le confinement. Et les doulas, elles accompagnent pas mal d'espaces aussi dans des accouchements à domicile qui sont très beaux, qu'il faut dédiaboliser. Donc c'est pas forcément le sujet de notre échange aujourd'hui, mais je glisse un tout petit mot là-dessus parce que c'est important aussi d'en parler. Mais en tous les cas, les enfants qui sont déjà là, si c'est pas le premier bébé, les enfants, ils ont un rôle à jouer aussi. Et bien souvent, pour eux, ça peut être un chamboulement émotionnel, l'arrivée d'un bébé. Et la doula, elle peut prendre en compte aussi ça. Elle peut, par exemple, si les parents vont accoucher dans une structure, venir s'occuper d'un enfant pendant le moment de la naissance. Donc voilà, et même si aujourd'hui en France les naissances sont particulièrement très médicalisées, donc il y a un très gros impact du paradigme médical dans lequel on est, la doula, Elle est là aussi pour déconstruire certaines briques de ce paradigme-là et dire il y a une autre voie possible que vous pouvez emprunter si vous en avez envie. Et ça, c'est important de dire aux parents qu'il y a cette voie qui existe et il y en a une autre. Et je ne sais pas si tu veux que je te donne quelques chiffres. Peut-être ça peut être intéressant.
Ouais, super.
En France, alors, ça vient aussi du fait qu'on a une sécurité sociale qui est incroyable et on a cette chance en France. Mais par exemple, le taux de péridurale en France est parmi les plus élevés au monde. Il y a plus de 80% des femmes qui bénéficient de la péridurale. Dans certaines maternités, ça dépasse les 95%. Donc c'est énorme. Et la péridurale, ce qu'il faut savoir, c'est que les doulas, elles ne sont pas forcément pro-accouchement physiologique, c'est-à-dire sans péridurale. Mais elles vont vraiment expliquer les effets d'une péridurale, ce que ça amène et ce que ça enlève. Et donc ça, c'est important de le comprendre. Quand on a une péridurale, on a moins de mobilité. Donc, on peut moins bouger. Et donc, on peut moins accompagner le bébé qui descend dans le bassin. Que le bébé fait un vrai gros travail lui aussi. Il n'y a pas que la femme. Il est poussé, propulsé par les contractions, mais il a vraiment un vrai boulot à faire. Et donc, il faut que la femme qui accouche l'accompagne grâce au mouvement. Donc, rester mobile, c'est super important. Donc, quand on a une péridurale, on est moins mobile. Donc, on accompagne moins bien son bébé. Et les postures finales, quand on est sous péridurale, eh bien, comme 90% des femmes en France, on accouche sur le dos. Sur le dos, comme tu le sais, quand on fait du yoga, on n'a pas la gravité qui joue en notre faveur. Et donc, les accouchements sont plus difficiles, on pousse plus longtemps. Et il y a ce qu'on appelle bien souvent une cascade aussi de gestes médicaux, avec eh bien, tout un tas de gestes qui peuvent être l'utilisation de ventouses ou de forceps, des épisiotomies, parfois non consenties encore, il faut le rappeler aussi, des césariennes, donc en France on est sur une césarienne pour 5 naissances. Les épisiotomies ont énormément baissé parce qu'il y a eu quand même beaucoup de déconstruction justement de la non-utilité de l'épisiotomie. C'est-à-dire que les épisiotomies, aujourd'hui c'est quand même encore une naissance sur 5 quasiment, ce qui est beaucoup. On était une naissance sur 3 il y a plusieurs années de ça, donc ça a énormément baissé, et surtout qu'on s'est rendu compte que même si les épisiotomies avaient baissé, les déchirures n'avaient pas pour autant augmenté. Donc on s'est rendu compte surtout de l'inutilité de ce haut taux d'épisiotomie qui était pratiqué. Donc c'est important de dire aussi que les choses elles bougent, les choses elles changent, que même si on faisait de cette façon dans les protocoles médicaux il y a 10 ans, que ça peut changer. Il y a des études, évidemment, qui sont faites très régulièrement. C'est important de savoir que les choses, elles bougent, les choses, elles changent. Je voulais juste parler des taux de dépression aussi, prénatal, postnatal, qui sont hyper hauts. On parle de 20-25% des femmes. T'imagines, c'est presque une femme sur 4 qu'on sait. Et la dépression postnatale, elle peut arriver. Donc, il y a le baby blues qui est très connu. On a une chute hormonale quelques jours après la naissance. Ça, c'est vraiment de l'ordre presque du normal. Hein. Mais la dépression postnatale, elle peut arriver plusieurs mois après la naissance du bébé. Par exemple, au moment où l'allaitement va s'arrêter.
Et comment ça s'explique?
Ça s'explique par les hormones. Donc, il y a une explication physiologique, on va dire. Et puis, il y a une explication émotionnelle. Alors, souvent, les femmes, elles sont en postnatal, elles sont très seules. Ça, c'est pour moi la principale explication de la dépression. C'est que en prénatal, on est très accompagné, on est très suivi, on fait de l'ostéo, on fait de la kiné, on fait du yoga, on fait blablabla, bla, bla, on fait tout ça. En postnatal, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en plus, avec le Covid, les confinements, les familles sont de plus en plus isolées. Les familles sont aujourd'hui éclatées. En général, c'est rare que nos parents, notre famille, vivent dans la même ville que nous. Les amis, ils viennent une fois, deux fois, ils viennent boire le café, déjeuner. Mais est-ce qu'ils viennent vraiment aider la maman ou les nouveaux parents? Et en fait, c'est de ça que les femmes ont besoin en postnatal. Elles ont besoin d'aide et de soutien. Elles ont besoin qu'on leur apporte à manger. Elles ont besoin qu'on vienne et qu'on leur fasse une lessive chez elles. Elles ont besoin, pas qu'on vienne et qu'on amène un cadeau au bébé, elles ont besoin qu'on vienne et qu'on les masse, qu'on s'occupe d'elles. Et je pense que ça, c'est vraiment des messages super importants à faire passer. Pour toutes les femmes qui accouchent dans vos entourages, n'allez pas les voir juste pour offrir un xème doudou ou pyjama. On s'en fout complètement. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on vienne nous masser, nous faire couler un bain, nous faire une lessive et du ménage et nous amener à manger un super repas chaud et nourrissant et qu'on nous chouchoute et qu'on s'occupe de nous. Et que si la maman va bien, le bébé va bien. Voilà ce qu'il faut dire.
Ouais, tu as bien raison de porter ce message et j'ai quand même envie de te poser une question sur ce que tu as dit tout à l'heure parce que ça éveille beaucoup ma curiosité récemment. Ouais. Sur la péridurale, comment est-ce que tu accompagnes les femmes justement qui ne veulent pas avoir la péridurale, mais faire en sorte pour autant qu'elles ne subissent pas une souffrance importante pendant l'accouchement?
Oui, c'est une très bonne question. Il y a des chiffres aussi qui existent sur l'accompagnement des doulas et entre autres, alors c'est pas forcément des données en France, mais ça va être des données des UK ou du Canada par exemple. La doula, elle peut effectivement vraiment aider à cette préparation à la douleur et préparation à l'accouchement physiologique. Il y a jusqu'à 60% de réduction de demande de péridurale quand on est accompagné par une doula. Donc si c'est un projet d'un accouchement physio, la doula, elle peut vraiment aider déjà en expliquant qu'est-ce que c'est la physiologie de la naissance, quelles sont les hormones qui interviennent, quels sont leurs rôles. Donc, je ne vais pas tout expliquer là maintenant parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est vraiment important de comprendre ce qui se passe dans le corps d'une femme, dans la mécanique du corps, dans la mécanique des hormones, dans la mécanique du bébé, quel chemin va devoir faire le bébé et quelle est l'utilité des contractions. Qu'est-ce que c'est que cette douleur des contractions? D'où elle vient? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle nous indique? Comment traverser ces douleurs? Comment traverser ces contractions? Alors, il y a évidemment plein de tips aussi qui existent, de posture, de mouvement, de respiration. Il y a ce qui s'appelle aussi l'hypnonaissance. Donc, il y a des doulas qui sont aussi spécialisées là-dedans. L'accompagnement, bien sûr. Il y a beaucoup de femmes qui témoignent, par exemple, aujourd'hui en structure, qu'on vient leur proposer la péridurale. Sur une femme qui a un projet de ne pas vouloir de péridurale, on vient lui proposer la péridurale. Ben, la première fois, elle dit non parce que ce n'est pas dans son projet. La deuxième fois, elle dit non encore parce que ce n'est pas dans son projet, mais elle commence à douter. Puis la troisième fois ou la quatrième ou la cinquième fois qu'on vient lui proposer une péridurale, eh ben, elle va dire oui. La doula, elle est garante aussi de ce projet de la femme et de la famille. Donc, alors bien sûr, une femme peut tout à fait avoir un projet d'un accouchement physio et finalement prendre une péridurale. Et il n'y a pas de diabolisation de ça, absolument pas. Mais on va en priorité respecter ce choix de la femme et la préparer. Donc avec vraiment voilà ces informations physiologiques et puis des soutiens aussi. Des soutiens de tips, de respiration, de mouvement, de posture. Et donc, la préparation de l'accompagnant est super importante parce qu'il a un vrai rôle. Il a un vrai rôle d'accompagnement et de soutien et de gardien de l'espace. Ouais.
Ah, super. On arrive malheureusement déjà à la fin et je pourrais te poser encore 1000 questions. Donc, je vais très certainement te solliciter pour faire un nouvel épisode. Mais pour celui-là, je vais te poser ma dernière question autour de ta femme qui est actuellement dans le parcours de la PMA aussi. Ouais. Et maintenant que tu es doula, peut-être que tu peux nous parler de ce que ça t'apporte, cette nouvelle formation dans ta vie de famille, et peut-être si tu as un dernier conseil aussi à donner à toutes les mères qui s'apprêtent à accueillir un enfant, qu'est-ce que tu aurais comme dernier conseil à donner? Du coup, je t'ai fait deux questions.
C'est vrai, deux en une. Je vais répondre à la première. Donc ma femme est enceinte de 6 mois maintenant, après un parcours PMA de plus de 2 ans et demi. Donc c'est vrai que c'était plus long que pour moi. Puis il y a eu le Covid au milieu, donc ça n'a pas aidé. Et donc on attend un bébé pour dans 3 mois. Donc c'était une belle expérience pour moi c'est une belle expérience pour moi de suivre cette grossesse aussi avec en simultané avec ma formation de doula. Pas forcément facile d'avoir une posture à la fois de partenaire en première ligne et d'avoir le recul aussi, d'essayer d'avoir ce recul de la doula. Mais oui, ça m'a énormément à la fois appris, à la fois aidé. Quel conseil je pourrais donner ou qu'est-ce que j'en retire? Je pense que le plus important, c'est, et c'est difficile parfois, mais c'est d'être là, de pas lâcher les personnes. Que ce soit dans un projet de préconception, dans un projet de naissance, dans un post-natal, comme je le disais tout à l'heure, dans un deuil également, d'être là. D'être là, même à distance, même dans l'espace, donc j'en reviens à ça, la doula, elle est gardienne de l'espace, d'être là et de manifester sa présence. Y a certaines femmes, certains parents qui ont besoin d'une doula très présente, d'autres un peu moins, mais je pense que la clé, elle est là, que c'est de savoir que cette personne, elle est là, dans l'espace, que si on a besoin d'elle, elle sera là, avec bienveillance, sans jugement, ça c'est vraiment super important, sans jugement, et puis avec humilité, donc c'est aussi vraiment un travail sur soi, et je rajoute un dernier mot, c'est que quand on entame une formation de doula, il faut s'attendre à devoir faire un travail intérieur aussi, et quand on accompagne les naissances. Et donc ça peut être un parcours assez long, que si on a un petit peu des casseroles derrière nous, qu'on a un petit peu de ménage à faire dans notre espace intérieur, un petit peu de, en anglais on appelle ça shadow work, c'est une opportunité aussi pour s'y mettre.
Super, merci beaucoup Anne pour tout ce que tu nous as partagé.
Merci
c'est
à toi,
beaucoup
merci
plus clair pour nous maintenant.
Tant mieux.
on était ravis de partager ce moment avec toi. Alors Sylvie, je t'ai pas fait parler parce que j'avais trop de questions à poser. Je suis désolée, mais je suis persuadée qu'elle a tout autant apprécié ce moment que moi. Donc merci mille fois pour ton temps et de toute façon, on partagera ton contenu, ton podcast et tout ça à nos auditeurs. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à toutes les deux.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie Desc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.